Sœur, je vais vous dire simplement pour commencer, et peut-être pour finir, parce que je ne suis pas sûr que j'irai bien plus loin. L'extrait d'une lettre qui m'a été envoyée par une religieuse hospitalière. Je ne vous préciserai pas davantage. Cette religieuse hospitalière m'a donc écrit il y a quelques jours. Sœur Marie-Jésus-Joseph, tout ce que vous voudrez, qui est la supérieure générale de cette congrégation de sœurs hospitalières, a écrit une lettre ouverte aux sœurs, à toutes les sœurs de la congrégation, qui a une dimension un peu planétaire, dans laquelle elle dit ce qu'elle a écrit à deux jeunes sœurs qui ont toutes deux un rein qui ne marche pas et qui sont en dialyse deux fois par semaine pour pouvoir survivre. Alors, je tiens un mot de la dialyse parce que j'ai appris par hasard très récemment de quoi il s'agissait grâce à des infirmières et à un infirmier que je connais. Alors, ça implique des séances qui pourraient être diurnes, mais qui la plupart du temps sont nocturnes parce que les gens travaillent pendant le jour, et que ça implique deux séances par semaine au minimum. Ça dure 4 heures au minimum. Ça réquisitionne une équipe de médecins invraisemblable parce que ça consiste à vider la personne de son sang, à lui nettoyer son sang, puis à lui remettre. Alors, en gros, c'est ça. Ça coûte 5000 francs français par séance. Et c'est pour toute la vie. Si quelqu'un, son rein ne fonctionne plus, il est condamné, s'il veut survivre, à ce genre d'exercice, au moins deux fois par semaine, toute la vie, jusqu'à la fin de ses jours, sauf si on peut trouver une greffe, ce qui est très problématique. Alors, mon instinct, quand j'ai appris ça, et j'étais pas seul, c'est-à-dire, zut, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est mon instinct personnel, ça n'arrache que moi. Zut, des acrobaties pareilles, pour survivre acrobatiquement, je sens que même si j'étais milliardaire, je crois que ça ne m'intéresserait pas. J'ai eu tout de suite l'instinct, sans vouloir aborder la question de l'acharnement thérapeutique que j'abandonne aux médecins, aux théologiens et aux magistères, je ne me lance pas là-dedans. Moi, personnellement, je trouve que, comme nous disons dans notre jargon, ad tempus, pour un temps, pour mettre ses affaires en ordre, pour mettre ses affaires temporelles en ordre, pour terminer un travail important, une œuvre importante, alors là, oui, autant de temps qu'il est nécessaire, la dialyse pour survivre le temps nécessaire. Pour se préparer à paraître devant Dieu parce qu'on sent qu'on n'est pas prêt. Oui, tout le temps nécessaire requis pour ça. Ça peut être long, ça peut durer des années. Ça, c'est une autre histoire. Tant qu'on dit, en toute honnêteté, non, je ne suis pas prêt à paraître devant Dieu, alors la dialyse, très bien, si on peut. Ça peut d'accord. Mais à partir du moment où on est prêt à paraître devant Dieu, moi, mon instinct, ça va bien comme ça. Hein ? Bon. Alors, ça, c'est ma réaction personnelle. Je vous donne la suite de l'histoire. Donc, lettre ouverte à toutes les sœurs de la congrégation. Dans cette lettre ouverte, la supérieure générale dit ce qu'elle a écrit à deux jeunes sœurs qui ont toutes deux un rein qui ne marche pas, qui sont en dialyse deux fois par semaine pour pouvoir survivre. Elle leur a dit, quand les reins ne fonctionnent plus, c'est Jésus qui appelle. Quand on fait des dialyses, on dit, attends Jésus, pas maintenant. Puis on passera plus tard. Enfin, ça, c'est moi qui dis, qui glose. Puis elle dit aux sœurs de réfléchir et de dire ce qui leur semble être la volonté de Dieu quant à ce traitement extraordinaire, entre guillemets extraordinaire, que les pauvres ne pourraient pas s'offrir. Elles ont répondu, toutes les deux, qu'elle renonçait à la dialyse pour la gloire de Dieu et l'amour des pauvres. Une a bien dit que, sur le coup, le monde lui était apparu bien sombre. Mais aucune des deux ne s'était révoltée. Elles ont dit oui, gentiment, humblement, même si un peu tristement. Ça a été aussi une grande lumière pour moi. La mort, c'est vraiment la rencontre avec Jésus. Mais gardez ça pour vous et ceux qui peuvent comprendre. J'espère que vous en êtes, c'est pour ça que je vous fais part de cette lettre qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup touché. D'un côté, je pourrais vous laisser là-dessus. Je trouve que ça vaut une conférence spirituelle. C'est une conférence spirituelle. Ça peut vous laisser méditer, chacune selon sa grâce. Bon, de l'autre, je pourrais parler des heures, et sans aborder la question de l'acharnement thérapeutique. Je pense à Saint Paul. Comme ça. Saint Paul, évidemment, lui, il n'aurait pas voulu de la dialyse. Voilà, ça, je pense que ça paraît assez évident. Et il le dit très clairement. Il dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et la mort, c'est une affaire. C'est une bonne affaire. C'est une aubaine. Car je désire me dissoudre et être avec lui. Et je suis un peu déchiré. À cause de vous, je reste sur terre. En disant, non, bon, parce que vous avez besoin de moi, mes pauvres enfants. Mais si je pouvais, je partirais. Alors vous pensez, si on lui a proposé une dialyse, il enverrait promener le monde. Parce que, pour autant, il suggérerait à tous les Corinthiens, les Thessaloniciens et autres Hébreux ou Romains d'en faire autant, ça, c'est pas certain. Ben, il les exhorterait peut-être sur l'air de dire, évidemment, nous sommes fous dans le Christ ou vous êtes sages. Alors, nous, comme on est fous, on a envie de partir. Bon, vous êtes sages, vous êtes charnels. Alors, prenez votre temps. Faites ce que vous voulez. Hein, ça, c'est... C'est pour ça que je comprends que c'est très délicat à prêcher, ces choses-là. Mais ça m'a fait comprendre, moi personnellement, je me suis dit, mais enfin, ça veut dire tout de même que le sens de la vie, c'est tout de même la mort. C'est tout de même chercher d'autres. C'est évident que la fin ultime de la vie, c'est la mort. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, c'est comme ça que ça va se terminer. Alors, d'où ben, si on ne croit pas à l'au-delà, au ciel et à la résurrection des morts, alors, comme dit Saint Paul, justement, même Saint Paul, alors on est obligé de pleurer comme ceux qui sont sans espérance. Et alors ceux-là, je peux approfondir leur psychologie, je sens malheureusement qu'ils sont légions, et je sens aussi très douloureusement qu'on leur fait beaucoup de concessions. Justement, pas parler à ces êtres avec miséricorde, oui, mais avoir l'air de partager leur point de vue, alors là, ça devient beaucoup plus grave. Je me rends compte que c'est difficile, même pour moi, de vivre avec le seul but d'aller au ciel. Même pas de réussir quelque chose sur la terre, même pas de. C'est pas intéressant. Fonder un ordre religieux, avoir une fécondité apostolique, lancer un message, écrire des livres, prêcher. Bon, c'est pas un but dans l'existence, ça. Le seul but véritable dans l'existence, c'est de mourir pour aller au ciel. Vous n'avez des enfants que pour les mener au ciel, les sécurités. Est-ce que j'en suis là? C'est là, vous voyez, c'est là où je sens que ça coince. Ça coince. Et je suis là, je suis sensible, douloureusement sensible, à une espèce de tarte à la crème qui s'appuie en prend théoriquement sur l'Église de tous les temps et le Concile en particulier, et sur ce que disent les papes aussi, construire un monde meilleur. Alors ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est vrai que les papes et l'Église a toujours invité les hommes à construire un monde meilleur, mais comment on sera le meilleur. Si vous en faites le but de votre vie, ça veut dire que ce qui vous intéresse, c'est la vie sur la terre. Ça se terminera par la mort. Quel intérêt ? C'est pas dans cette perspective-là que le Christ a parlé. Il nous a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » C'est-à-dire le ciel. Ben, quand même. Soyez spirituels et non pas charnels. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par ce croix. Ce qui veut dire que si, au lieu de vouloir se passionner, s'exciter pour construire un monde meilleur, tous les hommes, ou la plupart des hommes, ou la grande majorité des hommes, ou au moins les chrétiens, avaient comme premier objectif, comme premier but, aller au ciel, et qu'ils pouvaient tous dire comme saint Paul, « Cupio dissolvi et segum Christo, j'ai qu'une envie, c'est de me dissoudre pour être avec Jésus », à ce moment-là, par surcroît, tout le reste leur serait donné, c'est-à-dire de construire un monde meilleur. Ils construiraient un monde meilleur. Alors là, oui. Si on ne pensait qu'au ciel, ah, comme la terre serait un paradis. Mais c'est évident. Seulement, si on veut faire de la terre un paradis, on risque d'en faire, étant donné le péché originel, étant donné le démon, étant donné que nous sommes charnels, étant donné tout un tra... Et puis, étant donné que la plupart des hommes n'ont pas la foi, vous pensez ce que nous avons sous les yeux. Et je n'entre pas dans les détails. Les horreurs continuent. Bien que nous ayons connu, et que j'ai spécialement connu, autant largement que la plupart d'entre vous, car je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup plus âgés que moi, les horreurs de la guerre, les horreurs de la guerre froide, les horreurs de ce siècle où il y a 26 millions de martyrs, plus qu'il n'y en a jamais eu depuis le début de l'histoire de l'Église. Là, ça c'est Ogorodnikov qui le dit, ce sont les statistiques objectives, ça, bon, les horreurs ont pullulé au XXe siècle, comme le troisième secret de Fatima n'avait prédit indiscutablement. Est-ce qu'on va dire qu'elles se sont arrêtées? D'abord, je trouve pas que la Russie soit encore tout à fait convertie quand même, hein, sans vouloir. Bien. Alors, le monde meilleur, je ne le vois pas tellement venir. Par contre, la mort, je vois venir. Et oui, à mon âge, on voit venir la mort. Et je me rends compte que, d'une certaine manière, j'ai toujours fui cette perspective. Parce que je ne suis pas assez spirituel, parce que je ne désire pas suffisamment le ciel. Ça, c'est vrai. Mais je m'en accuse. Seulement, je n'accepte pas qu'on présente un autre optimisme que celui de la résurrection des corps et de la vie éternelle et du ciel qui nous attend dans l'immédiat. Et plus ça va, moins je peux. Je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire là-dessus. J'ajouterai simplement, pour terminer, ma réponse absolue à toutes les objections qu'on peut me faire sur tous les points, quels qu'ils soient. Alors là, j'ai une réponse absolue depuis quelque temps. Je l'ai offerte à vos sœurs du Carmel de Créteil, récemment. Elle a fait une conférence dans un état bien pire de celui dont je suis maintenant. Là, je suis en pleine forme, comparé à l'état dans lequel j'étais auprès des Carmélites de Créteil. Hein. J'ai commencé en leur disant, écoutez, je ne sais absolument pas ce que je vais vous dire. Mais alors, absolument pas. Et elles ont, pendant 5 minutes, elles ont dit, il ne va pas y arriver. Et alors, je pourrais résumer ce que je leur ai dit, ça a duré quand même une demi-heure. Avec ces mots très simples qui me servent de couverture définitive contre toutes les objections qu'on peut me faire contre ma foi, je n'y comprends rien. Voilà. Et alors simplement, je leur ai développé ce thème en leur expliquant que, en disant « je n'y comprends rien », je rejoins la sagesse la plus profonde, la plus haute, la plus vénérable et la plus officielle de l'Église. Parce que j'ai tout de même pour moi le plus grand des docteurs de l'Église latine, saint Augustin, qui dit tranquillement ceci, quand tu parles de Dieu, Si tu comprends quelque chose, c'est, tu peux être sûr d'une chose, c'est que ce n'est pas Dieu. Voilà. Donc, tu n'as qu'un seul espoir de parler vraiment à Dieu, c'est de ne rien y comprendre. Ah ben voilà, j'ai de l'espoir, parce que je n'y comprends rien. Et j'ai expliqué un petit peu plus en détail aux Carmélites de Calais comment je n'y comprenais rien à ce que Dieu fait et à quoi Dieu joue. Car il joue. La sagesse joue avec les enfants des hommes. Elle joue un jeu magnifique, génial, divin. Et précisément parce que ce jeu est divin, je n'y comprends rien. Et toutes les explications que vous me donnez sur la justice et la miséricorde, je n'y comprends rien. Et simplement, je soupçonne. Alors, c'est ça que j'aurais dit à Créteil. Je vais vous laisser là-dessus. Ou presque. C'est que la déroute que nous connaissons, quand nous disons, nous, les intellectuels les plus exigeants, dont je fais un peu partie, parce que je cherche la vérité quand même, la lumière, ça me tracasse, j'aimerais bien y comprendre quelque chose. Alors là, à quel point, bon, j'ai pris 10 minutes pour expliquer au sort de Caro Créteil, à quel point j'aurais voulu y comprendre quelque chose. Bon, je n'y comprends rien, mais ce souci, ce tourment d'y comprendre quelque chose, il est béni de Dieu. L'Église essaie d'y comprendre quelque chose, et elle doit essayer d'y comprendre quelque chose. Pour, justement, arriver à découvrir de plus en plus qu'elle n'y comprend rien. Bon, mais cet état dans lequel on est, quand, après avoir entrevu des lumières, après avoir reçu des lumières, après avoir cru comprendre, on s'aperçoit qu'on ne comprend décidément rien, cet état dans lequel on est, eh bien, je peux vous affirmer que c'est peu de choses comme déroute à côté de ce que les anges ont connu au premier instant de leur existence, alors qu'il n'y avait pas de distinction entre les bons et les mauvais. Ça, je suis sûr. Toute la tradition de l'Église est unanime. Au premier instant, tous les anges étaient bons. Eh bien, voilà. Ils étaient bons. Acte de charité surnaturel ou pas surnaturel, moi je pense surnaturel. L'Église dans l'ensemble pense qu'ils étaient dans l'état de charité surnaturel. Quelques-uns en ont douté, mais passons. Ils étaient tous bons. Et Dieu leur a offert ce que saint Bernard appelle la mort des anges. Il leur a offert d'entrer dans son repos, d'entrer dans sa folie, d'entrer dans sa lumière, d'entrer dans la danse trinitaire. Dans l'intimité totale, avec la folie des amoureux, car Dieu était fou d'amour pour eux. Parce que Dieu aime ou il n'aime pas. Là aussi, moi, j'y comprends rien. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas contenté de Dieu. Il aurait été tellement plus tranquille. Enfin, on n'a pas idée de ça. Enfin, il doit avoir des créatures. Non, mais qu'est-ce qu'il a besoin de créatures? Enfin, ça l'a pris comme ça. Et là, mais bon. Mais à partir du moment où il a des créatures, il les aime à la folie. Il ne s'est pas aimé à moitié. Alors ça, je suis sûr. Son amour est toujours infini. Ou rien. Alors il les aimait d'un amour infini, il dit, allez, viens, on va se mettre ça va être une étreinte éternelle. Ça va être... Enfin, il faut subir un petit changement, une petite dialyse. Mais alors, expliquez-moi, Seigneur, et alors il leur a expliqué toutes les choses, en une seconde, les anges comprennent tout, et ils ont compris en une seconde qu'ils n'y comprenaient rien. Et alors là, Dieu leur a dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est le cadeau que je te demande. Car, une fois que tu m'auras donné, qu'auras fait ce cadeau et que moi j'aurai fait le mien, à mon tour, quand tu m'auras fait confiance, tu m'auras fait le cadeau, je te mendie, je suis à genoux devant toi, je te supplie, fais-moi le cadeau de ta confiance. Dès que tu m'auras fait ce cadeau, moi je ferai le mien. À mon tour, je ferai le cadeau. Et quand je t'aurai fait mon cadeau, tu ne pourras plus rien m'offrir. Parce que c'est moi qui offrirai tout. Puis alors pour l'éternité, hein, ça, depuis là, pendant des milliards et milliards, il ne pourra jamais m'offrir ce que tu vas m'offrir là tout de suite, à l'instant. Ta confiance. Alors les uns ont dit oui, les autres ont dit non. Bon. Là, ça continue. C'est toujours la même histoire. Pour ça, je dis, je n'y comprends rien, mais je sens bien que la Sainte Vierge me dit, fais-moi confiance. C'est pas toujours commode. Moins c'est commode, plus c'est un cadeau. Puis ça dure toute la vie humaine. Vous vous rendez compte, c'est quand même. Ça vaut le coup, la vie humaine, le sens de la vie humaine. Faire des cadeaux à Dieu, Parce que ça, au ciel, on aimera Dieu, mais on ne pourra pas lui faire de cadeau. Hein. Ce cadeau-là, que vous pouvez lui faire, de lui faire crédit ou pas, de lui faire confiance ou pas, jouer votre vie sur sa parole ou non, vous pouvez le faire maintenant, dans les siècles et les siècles, vous ne pourrez plus, jamais. Et les âmes du purgatoire ne peuvent non plus le choix. Ils ont la foi, mais ça n'a aucun intérêt aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un cadeau. Ils ne peuvent plus faire autrement. Il y a trop de lumière, justement. Maintenant, on a de la lumière, on voit, hein, bon, on n'y comprend rien. Alors, on peut dire, bah oui, je te fais confiance. Ayez pitié de lui. La Sainte Vierge à Fatima, consolez-moi. Consolez Jésus. Mais on n'y comprend rien. François qui dit, ben François, il dit, alors là, moi je me sens tout à fait comme François. Quand on lui a parlé de l'enfer, il a dit, bon, ben ça va quelques années, mais après, ah non, c'est pour toujours. C'est pour toujours, c'est pas possible, si, c'est pour toujours. Oh ben alors, faut leur dire aux pécheurs, parce que si on dit que c'est pour toujours, ils vont plus pécher. Bon, ben, on leur dit, mais pas toujours, hein. Soit qu'ils ne le croient pas, soit qu'ils s'en moquent, soit etc. Enfin, et, bref, bien. C'est, j'y comprends rien. J'y comprends rien, mais justement, la Sainte Vierge nous dit, à vous, à moi, fais-moi confiance pendant ce temps si court, pendant lequel tu peux me faire des cadeaux en attendant que ce sera les miens, et tu ne pourras plus jamais rien m'offrir, c'est moi qui te ferai tout pour l'éternité. Merci de m'avoir le cadeau, de m'écouter.